France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand le dessin, quand le croquis, quand la caricature sont en eux-mêmes des articles politiques. Dessin, croquis, humoristique. Les lecteurs de journaux ont évolué depuis Daumier. Peut-être grâce au cinéma, on n'a plus besoin de titres, de sous-titres, de textes explicatifs. La gymnastique intellectuelle nécessaire pour comprendre, apprécier ou non un dessin humoristique dans la presse est bien ancré dans nos cerveaux. Dans les après-midi de France Culture, Michel Bichebois proposait une série intitulée « À coups de crayon ». Jacques Faizan, Tim, Desclozeaux, Topor étaient ses invités. Pierre Descargues donnait la parole à Michel Bichebois le 18 décembre 1973 pour présenter cette série, série dont nous allons entendre cette nuit les trois premiers volets.
Michel Bichebois, vous commencez pour nous aujourd'hui une semaine qui sera entièrement consacrée dans cette tranche au dessin dit humoristique.
Dit humoristique, vous avez raison oui. D'insister sur ce point. Je l'ai appelé d'ailleurs cette série « À coups de crayon ». C'est un titre frondeur et c'est un petit peu bizarre peut-être de vouloir parler de dessin humoristique. En fait, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le contact que j'ai avec un dessin, quand je le regarde, je ne sais pas, j'en ai quelques-uns là, par exemple, celui de Maurice Henry présentant un Christ chargé d'une croix et appelant un porteur, ou bien celui de Chaval avec un personnage qui, armé d'un marteau, s'apprête à écraser une mouche sur une vitre, ou enfin celui de Desclozeaux, je prends un petit peu au hasard, parce qu'il me semble qu'il reflète des sentiments humains différents. Un avion réaction qui lâche des feuilles mortes au-dessus d'une ville de gratte-ciel, New York par exemple. Oui, là, ce contact que j'ai avec ce dessin, tout de suite me fait rire, sourire. Ça fera partie un petit peu des questions que je vais poser au cours de cette semaine. Oui. Mais ça aboutit quand même à une réflexion.
Oui, c'est très curieux, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les dessinateurs vont beaucoup plus loin qu'autrefois. Avant-guerre, par exemple, les dessins dans les journaux étaient assez anodins. Et aujourd'hui, les dessinateurs peuvent traiter non seulement de la politique comme de tradition, mais ils vont quelquefois beaucoup plus loin. Cet exemple Desclozeaux que vous citiez tout à l'heure est révélateur de l'accès, je crois, du dessin à la poésie, qu'il n'avait pas toujours eu.
Et c'est très bon, je veux dire, pour le lecteur, parce que on a beaucoup de journaux. Et heureux ceux qui arrivent à tout lire, mais bien souvent, on lit en diagonale, comme on dit. Par contre, le dessin, lui, tout de suite, il nous saute aux yeux, on rentre dedans,
oui, c'est
plus que les titres encore.
Oui, le dessin donne le ton du journal et l'orientation tout de suite. Alors, il y a beaucoup de dessinateurs quand même, Dieu merci. Vous savez qu'après des périodes creuses, Paris a devenu une ville qui compte dans l'histoire du dessin, dans la vie du dessin contemporain. Alors, qui avez-vous choisi comme dessinateur? C'est énorme, il y avait beaucoup de possibilités.
C'était difficile parce que chacun a beaucoup de personnalités. Donc, si on veut faire un portrait de dessinateur humoristique, il faudrait les faire tous. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'en ai choisi quatre pour cette semaine. Jacques Faizan, du Figaro, du Point, que vous connaissez. Tim, de L'Express, Desclozeaux.
On connaissait autrefois sous le nom de Mittelberg, d'ailleurs.
Voilà.
C'est ça.
Desclozeaux, du Nouvel Observateur, et enfin Topor, qui est peut-être difficilement qualifiable, plus contradictoire que les autres, mais enfin vous aurez l'occasion de les connaître cette semaine.
Et ces dessinateurs, Michel Bichebois, où les avez-vous rencontrés?
Je les ai rencontrés sur leur lieu de travail préféré, soit chez eux, comme Jacques Faizan.
Je suis assez casanier, un peu par tempérament et beaucoup par nécessité, parce que comme j'ai beaucoup de dessins à faire, et que d'aller à Paris, où on rencontre des amis, où on va boire des pots et où on se promène, ça perd du temps. Alors je ne vais jamais à Paris, je reste le plus souvent possible chez moi pour pouvoir travailler.
Soit dans les bureaux de leur journal, comme Tim.
Vous venez souvent au téléscripteur, Tim?
Les dépêches, dans des moments très cruciaux, oui.
Avec votre papier à dessin?
Non, mais jeudi soir, si l'actualité change et mon dessin que j'avais fait risque d'être périmé par un événement en cours, et remettre en question la validité du dessin ou l'actualité du dessin, je suis souvent ici quand même pour que le dessin qui va paraître lundi matin dans le journal ne soit pas périmé. Donc, la caricature est une denrée périssable.
Donc il faut être à côté de la dépêche quand elle tombe.
Ah oui, vaut mieux. Si on est journaliste, si on travaille pour l'art tout court, on peut s'en passer. Mais si on essaie de coller à l'actualité, il vaut mieux quand même se tenir au courant. Et finalement, c'est quand même le rôle du journaliste.
Ou bien encore sur un lieu d'inspiration, au milieu de la circulation automobile, par exemple à l'entrée de l'autoroute du Sud, Porte d'Orléans, où j'ai conduit de force des Closeaux.
Qu'est-ce que je fais là, au bord de ces lignes jaunes, entre ces flèches, ces points rouges, verts dans tous les sens? Ça me fait penser au grand dessin de Chaval qui montre cet embouteillage à perte de vue de voitures collées les unes aux autres. Et il y a une flèche rouge pointée sur un des automobilistes, et la légende est « automobiliste en panne et ne le sachant pas encore ». J'exècre la voiture, c'est un objet tellement dégueulasse que même le prononcer me fait quelque chose, et que je m'acharne depuis quelques temps à le dessiner. Je tourne autour de ce sujet qui est malheureusement inépuisable.
Le monde qu'il frappe à coups de crayon, ses dessinateurs, comment le voit-il? Topor, chez lui, incohérent?
J'ai pas l'impression que le monde du dessin qu'il y a dans mes dessins soit en désordre. Excusez-moi.
Au quatrième top, il sera exactement 15h36 minutes.
Vous me disiez que ce monde était tout à fait normal, pas incohérent?
C'est-à-dire que j'ai changé d'avis depuis. Et puis je pense que vous avez raison, absolument. Il est absolument incohérent.
Comment observez-vous le monde? Vous écoutez la radio, vous lisez tous les journaux. Comment faites-vous pour être au courant de toute l'actualité du monde qui tourne autour de vous?
J'ouvre les yeux, les oreilles.
Vous marchez beaucoup dans la rue?
Oui, bien sûr, je marche. Et puis, tous les soirs, j'ingurgite des feuilles de chou. Et ça, non, j'ai beaucoup de respect tous les matins pour l'équipe. Parce que c'est un journal important pour moi, mais pas forcément pour mon travail.
Nous sommes en plein après-midi, et l'on sait qu'il paraît un dessin de Jacques Faizant tous les jours dans le Figaro. Cet après-midi, où en est le dessin de demain?
Le dessin de demain est parti. Malheureusement, je préférerais que le dessin de demain ne parte que ce soir, parce que je pourrais suivre l'actualité de plus près, mais les conditions d'imprimerie et de routage des journaux sont telles que je dois donner mon dessin le matin, à 11h30 en fin de matinée.
Donc vous subissez un handicap déjà par rapport aux journalistes de la presse écrite, car disons-le, votre dessin est un article politique.
Oui, bien sûr, j'essaie de me tenir au courant, j'essaie de précéder l'actualité pour autant qu'on puisse précéder l'actualité, mais par exemple, dans une période où il y a une guerre, comme il y a eu récemment le conflit du Proche-Orient, eh bien, je ne sais jamais en faisant mon dessin s'il n'y aura pas un armistice l'après-midi et si mon dessin ne sera pas caduque le lendemain.
Vous êtes chez vous?
Je suis chez moi.
Vous écoutez la radio, regardez la télévision, comment vous informez-vous du monde?
Eh bien, j'écoute la radio toute la journée, j'ai un compte-minute comme les cuisinières pour ne pas manquer les bulletins d'information, parce que si je me mets à travailler, je ne pense plus à l'heure qu'il est, alors mon compte-minute sonne toutes les heures, de façon à pouvoir avoir les bulletins d'information, et puis le soir, je regarde les journaux télévisés, au moins l'un des deux, et puis je lis beaucoup de journaux. Et puis voilà, alors en se tenant très au courant et surtout en n'ayant pas de trou dans l'information, c'est-à-dire que dès qu'on reste absent 15 jours et qu'on ne s'intéresse pas à la politique pendant 15 jours, on est perdu parce qu'il s'est passé des tas de choses. Les hommes politiques ont dit des tas de petites phrases importantes. Et lorsqu'après vous lirez dans un journal, lorsqu'après je lis dans un journal suite à la petite phrase de Monsieur Jobert, si j'étais pas là pendant 15 jours, je ne sais pas quelle est cette petite phrase. Donc il faudrait en principe 365 jours par an ne pas quitter l'écoute.
Qu'ai-je dit sinon que des territoires étaient occupés? J'ai simplement constaté une évidence et qu'il y avait des gens qui souhaitaient y rentrer parce qu'ils les considéraient comme leurs et que leur agression ne devait pas être imprévue dans ces conditions. Et voilà comment je vous demande de comprendre cette phrase, et je souhaiterais que vous puissiez y répondre et me dire ce qu'elle a d'inexact et ce qu'elle a de tendancieux, et en quoi elle est attentatoire à tel ou tel, et comment elle peut justifier, M. Servan-Schreiber, dans le journal que vous animez, une caricature particulièrement ignoble qui me représente foulant le drapeau d'Israël chaussé de babouches.
Monsieur le ministre, comment pouvez-vous critiquer la liberté de la presse française pour essayer de dissimuler, je resterai très modéré, les ambiguïtés choquantes de votre formule de l'autre jour?
Tim, l'homme dont il était question à l'Assemblée.
La plupart des médecins sont des dessins politiques. Satirique. Et je me range plutôt parmi les caricaturistes parce que je dessine des visages précis, connus. On met un nom dessus. Je dessine Nixon, Kadhafi, Pompidou. Je préfère qu'on les reconnaisse. Donc caricature, c'est une interprétation d'un visage et d'une situation. Si vous voulez, si je peux me permettre, si Daumier était caricaturiste, ça me va très 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 bien.
La caricature, c'est ce que fait David Levine, par exemple. Vous comprenez, la caricature, c'est une tête, la tête de M. Nixon ou de M. Agnew ou de M. Pompidou ou de M. Gandhi, sans qu'il y ait une idée satirique autre que la déformation que subit la tête du personnage. C'est un portrait charge. Caricature veut dire charge, c'est un portrait charge. Sans qu'il y ait dessous une idée, un gag, une légende ou quoi que ce soit. Tandis que le dessin politique, le dessin humoristique politique, le dessin de presse, implique qu'il y ait une idée, qu'il y ait une analyse de la situation, qu'il y ait un gag, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une légende. Ou même s'il est sans parole, il faut quand même qu'il y ait une idée. Il y a dans le dessin politique, il y a de la caricature, puisqu'on fait une charge du portrait physique des hommes politiques. Alors que l'inverse n'est pas vrai, la caricature n'est pas forcément un dessin politique avec une idée.
J'observe la politique et je rends compte d'une situation avec peut-être une interprétation. Je fais acte de journalisme politique. Mon dessin n'est pas fait pour être encadré et suspendu dans la salle à manger. Il est fait être consommé en même temps qu'un article ou une étude ou un essai ou, ou un éditorial. Il se veut aussi près de l'événement et aussi objectif que chacun des journalistes peut le faire.
Vous avez fait il y a quelque temps un dessin à propos du salon de l'auto et vous représentez de nombreux modèles de voitures sous forme de corbillards.
Oui, parce que c'est ça. Enfin, je vois pas ce que qu'une autre forme de voiture. Enfin, toutes les voitures, plus ça va, plus on se couche comme dans un cercueil. Elles sont noires et tristes. On est ficelé là-dedans comme des momies. Maintenant, je sais pas, c'est tout nouveau. On se met des espèces de grosses ceintures avec des boucles. On est bloqué là-dedans. On peut plus respirer. C'est effrayant. Enfin, je sais pas. Moi, ce sont des engins de mort.
Y a-t-il d'autres choses que vous n'aimiez pas et que vous dessinez, Desclozeaux?
Oui, il y a tout le problème, l'informatique, tous les ordinateurs, leurs petites bandes perforées, leurs bobines mystérieuses qui s'enroulent et qui se substituent à l'homme. On lui donne à bouffer du papier et puis on vous dit on peut plus rien faire, l'ordinateur et a dit ça, donc il faut le subir, même si ce sont des conneries. Il n'y a pas plus con qu'un ordinateur, en fin de compte.
J'ai par exemple sous les yeux un de vos recueils de dessins, d'expressions. Qu'est-ce qu'on doit dire à propos de vous, justement ?
De dessins.
Bah, oui. Des dessins.
Oui.
Bon, quelle c'est est votre profession ?
C'est la production, en fait.
Reproduction. Quelle est votre profession ?
Écrivain.
Donc, si je regarde les titres des chapitres, je vois toxicologie, les masochistes, terreur, soit avec point d'interrogation, soit avec point d'exclamation, l'art de mourir, ou le titre général au recueil, un monde immonde.
Oui, c'est particulièrement intéressant ce que vous dites, parce que, vous voyez, tous ces titres ne sont pas de moi. C'est l'éditeur espagnol. Ça, ce qui se justifie quand même, c'est que, bon, Toxicologie, c'est le titre d'un recueil donné par l'éditeur suisse, par un autre éditeur suisse, c'est pas moi non plus. Les masochistes, ça c'était moi, c'était le premier livre que j'ai fait. Et tout le reste, il y a l'art de mourir, c'est des dessins d'illustration pour un livre écrit par un ami, André Ruellan, c'est lui qui a trouvé le titre. Et vous voyez, enfin, il y a un titre à moi dedans, c'est les masochistes.
Alors on a classé vos produits d'écrivains.
Oui, non, quand je dis écrivain, c'est pas que je pense que ce soit des œuvres littéraires, c'est que je trouve, comme j'ai écrit aussi, et je trouve qu'il est plus chic de dire écrivain que dessinateur, alors je dis écrivain, c'est tout.
Donc j'ai là un recueil édité en Espagne, vos dessins sont sans légende, non. Vous êtes un écrivain international. Nos petits problèmes de l'Hexagone n'ont pas l'air de beaucoup vous intéresser.
Oh, vous savez, il m'intéresse, simplement, je ne sais pas très bien ce que je peux faire, je trouve tellement tout dégoûtant.
Là, j'ai un
très
autre
pessimiste.
Recueil. Oui, vos dessins paraissent, par exemple, dans le New York Times. Ils paraissent un petit peu partout dans le monde. Donc, le monde est immonde partout.
Oui, c'est-à-dire que le New York Times, c'est un ami qui était directeur artistique et qui aime bien certains types de dessins et les miens, et qui en a passé. Enfin, mes dessins ne paraissent pas n'importe où, sinon, vous savez. Ils paraissent là où j'ai des amis. C'est toujours par relation, par corruption, que j'arrive à placer un dessin ici ou là.
Est-ce qu'on pourrait un peu mieux vous connaître, Topor ?
Venez chez moi, demain.
Vous dessinez chez vous, du reste ?
Bah, ça fait 2 mois que je n'ai pas dessiné. Non, enfin, maintenant, il faudrait que j'en fasse un.
Oui, que faut-il pour que vous dessiniez, alors ?
Il faut vraiment que j'en ai, qu'on me le demande. Et que je puisse plus remettre à demain. Oui, ben je dessine plus par plaisir, presque pratiquement.
Vous travaillez à la commande.
Oui, enfin, la commande, c'est pas forcément la commande au dessin. Disons qu'il y a des gens qui me disent qu'il faudrait 3 dessins, il faudrait 4 dessins.
Alors comme illustrateur.
Comme illustrateur ou bien pour une expo, pour des, vous savez, pour. On a besoin d'une présence dans une exposition à 10 personnages. Pour sur le dessin humoristique, alors ça se fait beaucoup.
À part le New York Times, on ne voit pas vos dessins dans des journaux.
Ah non.
Vous ne pourriez pas rentrer dans un cycle périodique.
C'est-à-dire que j'y ai tenu un moment, mais c'était difficile. Maintenant, j'y tiens plus. Ça m'est égal.
Je ne suis pas un artiste chez moi dans mon atelier qui veut transmettre au public ma capacité de dessiner des visages ou des corps humains ou des objets. Je suis journaliste. Je me sers de ma capacité de dessiner, que j'essaie pour ma part de nourrir et de perfectionner, de rendre à la fois valable du point de vue dessin, mais mon premier devoir, c'est d'être compris par les lecteurs.
J'envoie le dessin au Figaro. Avant, j'étais à Paris Presse, c'était pareil. Si ça ne va pas, on me téléphone. Il est arrivé qu'entre le moment où je... Ou bien il est arrivé que je me trompe, alors carrément, dans mon analyse de la situation, il arrive que je me trompe. Et à ce moment-là, le Figaro, à la réception de mon dessin, me téléphone et on me dit « c'est pas ça, c'est faux, l'analyse de la situation est fausse ». Ou bien « la situation a changé entre le moment où j'ai fait mon dessin et le moment où il est arrivé ». Ça change très vite, parfois. Puis il y a les fêtes aussi, donnant le dessin le matin, les conférences de presse qui ont lieu l'après-midi. Lorsque, dans son avant-dernière conférence, le président Pompidou a dit tout d'un coup qu'il allait y avoir un référendum sur l'Europe, mon dessin était déjà parti et il ne parlait pas du tout de référendum. Il a fallu que je téléphone au Figaro en disant « Arrêtez le dessin, renvoyez-moi le chauffeur, je fais un autre dessin. » Et le temps que le chauffeur vienne l'après-midi, j'ai fait un autre dessin et qui est reparti au Figaro, qui est arrivé suffisamment en temps pour l'édition de Paris.
Coup de crayon par Michel Bigebois, ce premier volet de la série fut diffusé pour la première fois sur France Culture le 18 décembre 1973. Dès le lendemain, Michel Bigebois revenait à la charge.
Maintenant, vous êtes sur une route départementale.
Ça m'étonnerait, alors.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale.
Oui.
J'y vais jamais sur les routes départementales.
Ah, oui.
C'est plein de boue et ça sent mauvais.
Oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition, alors. Vous êtes sur une route départementale ?
Au bord d'une autoroute, des closos.
Ne dessine-t-on que des choses qu'on n'aime pas quand on est dessinateur humoristique ?
Non, parce que je dessine aussi des escargots, des papillons, des tortues comme celle qui est sous ma table à dessin, un lapin comme celui que vous aviez entrevu la dernière fois que j'ai rapporté des vacances, qui est un gros lapin de 3,5 kg, qui sont chez moi et qui heureusement ne sont pas dans la rue parce que avec ce trafic, ils n'iraient pas loin. Mais ça, c'est un peu pour me rappeler la campagne d'où je suis originaire. Malheureusement, les voitures. J'étais très très surpris l'autre jour. On m'a emmené justement en voiture parce que je monte de temps en temps en voiture, mais en serrant terriblement les fesses et en crispé sur les poignets. Il y avait à l'entrée de l'autoroute là de la porte d'Orléans un hérisson qui était écrasé. Alors je sais qu'on a déjà beaucoup parlé des hérissons écrasés, mais là, si près et dans Paris, j'ai vraiment été surpris de voir que ce pauvre petit campagnard qui était arrivé là pour voir la capitale avait été très mal reçu.
Et vous a-t-il inspiré un dessin ?
Oui, de l'écœurement encore. Enfin, ça m'a choqué de voir cette petite bête, parce que vous savez que les hérissons, c'est adorable. Enfin, d'abord, graphiquement, c'est très joli. Et puis c'est mignon, ça, c'est craintif. Et le voir complètement écrabouillé là aux portes de de cette grande ville, je sais pas, non, ça m'a pas inspiré un dessin, mais je trouve que c'est une image triste.
Ça aurait pu. Est-ce qu'un fait comme ça provoque une réaction chez un dessinateur ? Est-ce que tout de suite, si vous aviez une feuille blanche sous la main, vous auriez crayonné tout de suite un dessin ?
Non, mais j'y pense et ça viendra peut-être un jour.
Le dessin d'humoriste, bien souvent, donc, n'est pas gentil. Il est encore moins gentil quand il s'attaque aux vieilles dames.
Oh non, ça, vous savez, ça, c'est de la vieille légende. Je suis très bien avec les vieilles dames, contrairement à ce qu'on pourrait croire. À part deux ou trois vieilles dames qui m'ont écrit des choses désagréables, toutes les autres sont ravies.
À votre décharge, elles sont snobs, vos vieilles dames, souvent.
Elles sont snobs. Non, elles sont pas snobs, elles sont vivantes. Elles sont très vivantes. Elles paraissent snobs parce que elle s'attaque à des choses qui sont des problèmes pour les autres qui n'en sont plus pour elle, parce qu'elles sont âgées. Je ne dis pas que les gens âgés n'ont pas de problèmes. Les gens âgés ont des problèmes. Surtout les gens âgés qui n'ont pas une certaine aisance matérielle. Or, mes vieilles dames ont de l'aisance matérielle. Elles sont assez riches, parce que ça serait tout à fait ignoble de mettre en scène des vieilles dames pauvres et de faire rire les gens avec des avatars, des mésaventures, plutôt qui arrivent à des personnes pauvres. Donc mes vieilles dames ne sont ni invalides, ni gâteuses,
ni dans une petite voiture roulante, ni pauvre. Ce qui fait que je peux me permettre de m'amuser avec elles, étant donné qu'elles n'ont que des toutes petites infirmités. Elles portent des lunettes, moi aussi, elles sont un peu sourdes, je le deviendrai. Elles sont de temps en temps, elles ont besoin d'une canne pour se soutenir. Ça m'arrivera, c'est pas très grave tout ça.
Beaucoup moins gentil, Topor.
Le masochiste que vous représentez, par exemple, coinçant son bras dans une porte et s'efforçant de la fermer au verrou.
Bah, oui, c'est un peu... Moi, ça, je trouve ça drôle, mais c'est pas du comique. Je crois pas que ce soit du comique, puisqu'on peut imaginer la même... Ça dépend de l'ambiance qui entoure cet acte. Si c'est un homme qui vient de perdre sa femme, sa petite fille... et qui a appris qu'il a un cancer, c'est pas forcément comique. Ou bien s'il a la gangrène, ça sent très mauvais, il est dans une pièce et il ferme, vous voyez, il essaie de fermer pour échapper à l'odeur. Ça peut être une horrible histoire. Le fait que ce soit comique ou pas comique, ça suppose qu'il y a une ambiance autour.
Pour un dessinateur humoristique, avoir la chance ou le don de trouver un personnage fétiche comme la vieille dame, c'est déjà... un avantage, parce que votre vieille dame peut simplement lui faire les pieds au mur et ça fait rire. À partir du moment où le personnage est trouvé.
Oui, il ne faut pas que je lui fasse faire trop souvent les pieds au mur tout seul, comme ça je comprends ce que vous voulez dire. Mais les gens se lasseraient vite de l'avoir simplement dans une situation anachronique. C'est-à-dire que bien sûr, on peut faire rire en faisant faire à des vieilles dames des choses que les vieilles personnes âgées ne font pas en général. Donc les pieds au mur, par exemple,
c'est le rire réflexe,
ou la barre fixe, ou du trapèze, ou boire du whisky au lieu de boire un tilleul, des trucs comme ça. Mais on a vite fait le tour de ces situations-là, et les lecteurs s'en lasseraient très vite. Vous comprenez, il y a quelque chose de très important, c'est que les lecteurs ont évolué depuis les débuts du dessin humoristique. Dans les débuts du dessin humoristique, les gens avaient besoin de beaucoup d'explications pour comprendre de quoi il s'agissait, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit formé à une gymnastique intellectuelle rapide, qui leur a été donnée par le cinéma. Alors, quand il y avait un dessin, il y a des dessins de Daumier, par exemple, où il y a 12 lignes de texte. Il y a d'abord un titre, et puis il y a qui parle à qui. Il y a le monsieur, le mari, 2 points. Et il dit quelque chose à sa femme, la femme répondant à son mari, 2 points, parce que les lecteurs n'avaient pas la gymnastique intellectuelle nécessaire pour dire cette phrase-là est sûrement dite par le mari et cette phrase est sûrement dite par la femme. Or, grâce à l'invention du cinéma, les gens ont pris l'habitude de comprendre d'une séquence à l'autre ce qui s'était passé. L'ellipse, vous comprenez, de la situation, c'était impossible pour des gens d'il y a 50 ans. Je cite toujours, à l'appui de cette thèse, une scène d'un film de Laurel et Hardy, d'un film, donc c'est très rapide. Laurel dit à Hardy « J'ai trouvé un moyen pour gagner de l'argent facilement. » Et clac, coupure, séquence suivante, ils sont en prison. Et tout le monde rigole. Et les gens ont eu une fraction de seconde dans la salle pour faire tout le raisonnement qui consiste à dire « Il a trouvé un moyen pour gagner de l'argent facilement, c'était un moyen malhonnête, il a essayé, ils se sont fait prendre, ils sont en prison. » On n'a pas eu le temps de réfléchir sur le rythme auquel je viens de parler. C'est dans la fraction de seconde que les gens ont compris.
Tim.
Il m'arrive d'employer forcément une légende, une citation. J'ai découvert en 1942... le dessin de Steinberg, dont à part cette qualité unique graphique d'invention, était de se passer de légende et ainsi faire participer le lecteur à une plus grande attention sur le dessin pour que lui-même trouve l'endroit drôle ou marquant ou percutant du dessin. Et ça me paraissait être à la fois un hommage au lecteur et une discipline plus propre au dessin.
Vous ne cherchez pas le personnage fétiche qui vous rende très célèbre ?
Là, j'ai eu une expérience, les premiers dessins quand je suis revenu du service militaire. Je suis allé voir un monsieur qui avait une grande importance aux yeux des jeunes dessinateurs. C'était Jean-Jacques Pauvert, qui à l'époque publiait les dessins de ciné de Maurice Henry, de Chaval. Et j'ai appris qu'il faisait une anthologie. Et je suis allé lui présenter mes premiers dessins. Et j'étais reçu par un de ses collaborateurs qui était Jean-Pierre Castelnau. Et ce dernier m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous évertuez à faire la même tête à vos personnages? Je lui dis, mais parce que quand je vois les dessins de Chaval, les dessins de Bosque, les dessins de Ronald Searle, ils ont tous la même tête. Et il me dit, à mon avis, vous trompez. Et j'ai bien regardé, je me suis aperçu que cette tête-là, il ne fallait pas faire un moule qu'on reproduisait systématiquement, mais que c'était un personnage qui arrivait à vous appartenir petit à petit, à force de le décanter, de voir... J'explique que mes personnages ont des gros nez, ils ont des ancêtres, et je pense que le véritable grand-père de mon bonhomme est le personnage héroïque de Savignac. Ce type qui avait un nez très très long, un nez rouge, long comme une baguette de pain. Et voilà, puis ça a suivi. Moi-même, je crois avoir un bon pif, et j'attache une importance. Parfois, il y a des traits que je ne vois pas, mais le pif de quelqu'un, en général, je crois que je l'enregistre assez bien.
Topper.
Alors parlons de vos dessins. Un de vos plus célèbres représente un visage écrasé par un coup de poing. Ça pourrait se résumer le coup de poing dans la gueule, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est ça. Vous l'avez bien résumé.
À quoi pensiez-vous ce jour-là?
Je ne me souviens plus, mais je crois que je pensais à une image qui soit choc, si je puis dire. Et...
Vous frappez dur. Avec votre crayon.
C'était fait pour une affichette, en fait. Et ça avait une raison. C'était une affichette et il fallait que ce soit une image qui soit choc, oui, qu'on puisse voir. Et je pensais à ça parce que ça résume. C'est très symbolique, je trouve.
Si je vous dis, il y a des dessins que j'aime, que j'apprécie, par exemple, où je trouve certaines qualités que je vous définirai tout à l'heure, et puis il y en a d'autres.
Que vous n'aimez pas. C'est normal.
C'est plus grave, que je ne comprends pas.
Celui-là. Ah oui, mais ça c'est très simple. C'est un dessin
qui était. Vous êtes gentil,
Topper. Oui, c'est un dessin qui représente une petite fille. Enfin, non, mais je préfère d'abord une explication et ensuite décrire le dessin.
Oui.
C'était, il faisait partie. Il a été isolé, donc il est incompréhensible. Mais je déteste pas qu'il soit incompréhensible. Cela dit, ça faisait partie de 5 cérémonies pour une jeune fille. C'est-à-dire, ça c'était la cérémonie de la remise des bas. Ensuite, il y avait la remise des premiers escarpins à talons hauts. Le premier soutien-gorge, les premiers bijoux.
Cette cérémonie se situe où?
C'est dans un espace imaginaire, mais c'est des cérémonies pour l'intronisation de la nouvelle jeune fille, oui, avec les éléments. Alors c'était cérémonie pour la remise des premiers bas. Ça représente un personnage, le visage à moitié dissimulé par un bas qui tient une bannière avec un bas au bout, avec une femme, vieille femme cul-de-jatte qui présente les bas à la petite fille, à la jeune fille dont les jambes sont immobilisées par des liserons, par des plantes, et qui se tient sous une énorme jambe de femme colonne. Voilà. Et c'est pas un gag, ça joue, c'est des rapports qu'il y a entre les choses. Quand il y a un cul-de-jatte et qu'il y a des chaussettes, il se crée quelque chose. C'est pas forcément un gag.
Loulou, t'aurais pas une photo de Sanguinetti?
Si, j'aurais une photo de Sanguinetti quand j'aurais le violet. Mais quelle heure est-il?
Il est midi.
Il est midi.
Bon, Sanguinetti, oui. Et Debray.
Alors, je crois que c'est une carte Carrefour et Euromarché.
Pour venir à la pêche de photos, alors, ici, où sommes-nous, là, exactement?
Là, on est aux archives photos. C'est un immense hall avec... des dossiers classés, des dossiers de photos de toutes les personnalités, de tous les objets.
Et il vous faut les dernières photos? Les physiques changent, évoluent si rapidement que ça?
Oui, non mais pas forcément les dernières, mais au moins il me faut quand même, disons, Maurice Schumann tel qu'il est aujourd'hui et non pas quand il parlait à la radio de Londres. Il a quand même changé depuis 30 ans et Debray aussi et... Et alors, il y a des personnages plus jeunes ou qui ne changent jamais. Mais enfin, il faut quand même les montrer tels que les gens les voient à la télévision pour qu'ils puissent les reconnaître, les caricatures.
Et quand vous consultez la photo, vous avez déjà votre idée en tête?
Ah oui, 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 c'est la photo, si vous voulez, c'est l'étape. Après avoir fait une certaine composition possible, c'est là, si j'avais choisi les personnages dans la caricature, là, il me faut quand même rafraîchir ma caricature pour qu'elle ne ressemble pas forcément à celle que j'avais fait 2 semaines auparavant.
Si vous prévoyez de représenter votre personnage en colère ou énervé, vous cherchez une photo où il est déjà dans cette position-là ?
Non, 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 non. Je veux dire, l'expression que je donne au visage est un travail de caricaturiste proprement dit. La photo est un aide-mémoire. Je ne déforme pas la photo ou qui est déjà la vision du photographe.
Oui, qui est déjà subjective.
Qui est déjà subjective. Moi, j'essaie de me servir de ce que... Est-ce que cette vue est enregistrée et me rappelle pour recomposer une expression de Sanguinetti ou de Debray ou de Pompidou ou de Brejnev ou de Nixon ou de Kadhafi ou de Fessal ou de...
Est-ce que la photo risque de vous faire tilt tout d'un coup ? Supplanter l'idée que vous aviez eue avant ?
Oui, ça m'est arrivé. Il m'est arrivé que, en feuilletant les photos, en voyant dans une situation ou devant un micro ou sur un chantier, que l'élément accessoire m'ait donné une idée d'un dessin. Si vous voulez, un jour, en dessinant la forme du nez de Mao, je me suis aperçu que le visage de Nixon pourrait très bien entrer dans le visage de Mao, et c'était au moment du voyage de Nixon en Chine où le nez de Mao était le visage de Nixon enserré entre les deux joues de Mao, et ça me paraissait bien correspondre à la situation à ce moment-là.
Nous parlons comme ça, là, tranquillement. Est-ce que tout d'un coup, vous n'allez pas vous arrêter et puis dire, attendez, une seconde, j'ai une idée, je vais...
Non, décider. Jamais, non.
Vous n'interrompez pas.
Ah, non, je n'interromps jamais rien pour... pour la politique, enfin, je veux dire, quand j'écoute le journal parler ou que j'écoute les informations, alors là, bien sûr, je note ce que j'entends, parce que sans ça, j'ai oublié après. Mais sinon, quand je me promène, je me promène. Quand je fais un repas, je fais un repas. Quand je fais une émission de radio, je fais une émission de radio. Les idées, en fait, vous savez, l'image du monsieur qui se promène avec un petit carnet dans sa poche et qui note ses idées, il y a peut-être des dessinateurs qui agissent comme ça, mais parmi ceux de mes confrères que je connais, il n'y en a aucun. Vous savez, l'idée, il faut se mettre devant une feuille blanche avec un crayon et presser le citron jusqu'à ce que l'idée sorte.
Nous ne sommes pas actuellement dans une situation risible.
Non.
Vous pourriez tirer profit.
Non, nous ne sommes pas actuellement... On peut tirer profit de toutes les situations. Alors ça, vous comprenez, un monsieur qui fait une interview, on peut tirer parti de toutes les situations. On peut faire le monsieur l'interviewé qui se prend vachement au sérieux, ou l'intervieweur qui s'est trompé d'interview, ou enfin, on peut toujours tirer quelque chose de... Mais je ne dis pas que c'est forcément bon. Je dis qu'on peut toujours trouver une idée, mais... Vous comprenez, pour un thème donné, il faut trouver, pour avoir une bonne idée, il faut en trouver 5 ou 6, en réalité. Si c'était une commande, et si on me disait pour demain, il nous faut un dessin sur une interview radiophonique d'un dessinateur chez lui, eh bien je chercherais, je prendrais une feuille de papier, je noterais peut-être 10 ou 15 idées. Et puis je prendrais non pas la meilleure, mais la moins mauvaise.
Et puis d'ailleurs, vous parlez très, très facilement, vous n'avez aucune gêne, vous avez...
C'est vrai, en général, n'est-ce pas seulement au micro, moi
Ça va, ils sont prêts, on peut y aller.
Allons-y, pas trop vite, n'est-ce pas ?
C'est pas une motocyclette, hein ?
C'est un casse-gueule quand même.
Je compte.
Qu'allez-vous me demander ?
5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes chers auditeurs, ici Philippe Grand qui vous parle. C'est avec moi que vous avez pris l'habitude de rendre visite à vos vedettes préférées. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène chez monsieur... Mais son nom ne vous dira absolument rien, car aujourd'hui, nous sommes chez Bobos. Oui, mes chers auditeurs, chez Bobos, le célèbre Bobos. Votre illustrateur favori, celui dont vous aimez tant les personnages à la fois naïfs et touchants. Eh bien, Bobos, il est là...
C'était « À coups de crayon » par Michel Bijbois, deuxième volet. Première diffusion sur France Culture le 19 décembre 1973. La suite de cette série, diffusée le lendemain sur France Culture, la voici.
Jacques Faiza.
Il m'est arrivé de faire des dessins dont je me disais « Ah, voilà un dessin qui va avoir un impact, dont je suis content, qui va avoir du succès. » Et puis, c'était un bide total. Et puis, des dessins auxquels je n'ai fait accorder aucune importance ou prêter aucune attention sont des dessins dont on a parlé ou dont on m'a fait des compliments ou des reproches, enfin.
Décloseau. Regardez les voitures, elles sont arrêtées, elles ne bougent plus.
Ça me fait bien plaisir.
Le comportement de l'automobiliste peut-il, à l'instant, maintenant vous avez votre serviette, là vous avez peut-être des papiers et un crayon, vous aspirez. Comment arrivez-vous à concrétiser une idée? Comment ça vous vient? Vous voyagez dans le train, je ne sais pas, expliquez-nous un petit peu le cheminement de l'idée jusqu'au dessin.
On ne le sait pas très bien non plus, vous savez, c'est parce que vous heurtez à quelque chose et vous trouvez ça tout à fait énorme ou stupide, enfin, et à ce moment-là, ça... C'est rare quand une idée vient directement. J'ai trouvé une idée hier, en montant le but Montmartre. Avec un ami, on parlait d'un sujet et je lui parle du panneau « Attention, chute de pierre ». Et comme ça tournait autour de la voiture, j'ai eu l'idée, au lieu de faire des pierres qui tombent, de faire des pierres tombales qui tombent. Pourtant, ce n'était pas du côté du cimetière Caulaincourt. C'est venu comme ça, si vous voulez, c'est le mot Pierre, j'étais rue Le Pic, donc c'est pas forcément, mais il est vrai que de voir deux automobilistes congestionnés qui s'engueulent, ça donne envie de faire des dessins, de voir tous les gens qui vont au salon en voiture, qui se pressent, qui n'arrivent pas à arriver, qui gardent leur voiture à 2-3 km du salon pour aller voir une malheureuse bagnole rouge, verte, sur un piédestal qui pue, qui est pleine de graisse, qui... Je trouve ça invraisemblable. Enfin, qu'ils y aillent à pied s'ils veulent voir une voiture, mais qu'ils n'y aillent pas en bagnole. Je sais pas, c'est plein de non-sens et de stupidité.
Seriez-vous d'accord pour qu'on mette ici, à l'entrée de cette autoroute, un grand panneau publicitaire qu'on recouvrirait d'un de vos dessins, qui décourage de la voiture?
Il y en a un, je crois, qui a fait un peu son chemin. Mais enfin, c'est plutôt à vous de parler mes dessins. Moi, je ne sais pas. Mais c'est le dessin des cibles que vous avez vu à Avignon. Celui-là m'a fait plaisir parce qu'il a fait son chemin. On m'en a parlé. On m'a dit que j'étais un salaud. Et si je suis un salaud, c'est que j'ai vu la chose assez directement et que je pense que le dessin est juste.
Vous représentiez une ligne droite bordée d'arbres et une voiture sur chaque tronc d'arbre sur lequel était dessinée une cible. Comme si oui, ça avait été des balles qui avaient frappé les troncs d'arbres.
Des grandes cibles en papier étaient collées sur le tronc des arbres et les bagnoles venaient s'enviander, je crois que c'est un mot qui peut correspondre à l'automobiliste, sur les platanes.
Et si en voyant un pareil dessin, en le découvrant dans un hebdomadaire, vous voyez tout de suite l'automobiliste descendre de sa voiture et la planter là, vous seriez content? Vous auriez fait œuvre humanitaire?
C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de permis de conduire, je ne sais pas conduire, que j'ai en tout et pour tout dans ma vie, j'ai dû tenir pendant un quart d'heure le volant d'un tracteur, donc à 15 ou 20 à l'heure, parce que je crois que d'abord il y a deux réflexes qui me viendraient tout de suite à l'esprit, c'est celui d'accélérer quand je vois un abruti pour lui rentrer dedans, donc le tuer. Comme je suis un non-violent ou j'essaie de l'être, à ce moment-là il y a une contradiction, ou bien à ce moment-là je fermerai le contact et je planterai ma voiture au milieu. Je crois que c'est les deux choses, ou alors avoir des grosses massues en caoutchouc pour taper dans tous les sens. Mais je sais pas, c'est vraiment un instrument détestable, vous voyez, qui me rend méchant.
Patience aux Batignolles. Si vous comptiez déjeuner place Clichy, mieux vaut sucer votre pouce dans votre voiture. C'est l'enfer à Trocadéro. L'avenue Georges Mandel est engorgée. Paul Doumer est gavé, et ceux qui ont pris Raymond Poincaré sont des enfants de cœur. Vous êtes coincés à l'écoute de PIM, 912 mètres, 11 moyenne.
Le public vous prend-il au sérieux? N'êtes-vous pas un peu découragé tout de même? De faire rire par des choses aussi graves pour vous? grave pour vous.
Là, vous savez, on en revient dans notre conversation. Le rire, le sourire, je crois que c'est pas... Tenez, on voit là qui a deux doigts. Brave type, en mobylette, il a failli se faire descendre. Vous avez pas vu, il a pris son virage. Le type a pas freiné. Bien, l'automobiliste a le droit sur deux roues, bien sûr. Quand on en a quatre, on a les moyens, donc on peut se payer un cycliste. Non, je crois qu'entre le rire et le sourire... Pour des dessins sur la voiture, enfin des dessins qui veulent attirer l'attention, je crois que c'est ça. Il ne s'agit pas de faire rire, mais de montrer une chose que les gens n'ont peut-être pas toujours vue. Pour eux, la voiture, c'est le week-end, c'est partir à la campagne, mais ils ne pensent pas au retour.
Mais vous avez un grand respect pour votre public en lui montrant ses défauts, ses tares.
Ah, ce sont les bases de mon métier, c'est d'essayer de mettre le petit point sur le i, d'essayer de voir ce que le... Remarquez, ça... Je crois que ça sert à rien.
Quand vous avez dessiné,
oui.
Est-ce que vous êtes content de vous-même?
Non, pas tellement. Non, je suis pas content. Enfin, parfois, je suis assez content. Je dis c'est pas mal. Et puis, mais enfin, par rapport à sa vie, ça fait partie de la grande décadence de l'art. Avec une plume et de l'encre. Ça devient de plus en plus dur de dessiner aussi bien que Goya.
Alors, comment considérez-vous votre public? Quel respect avez-vous pour lui?
Aucun. Je me fiche totalement de mon public. Il m'est complètement égal. Je le méprise totalement.
C'est pourquoi pas vrai, il n'est pas digne?
Je respecte.
Il achète vos recueils.
Non, même pas. C'est pour ça que je le méprise. Non.
Vous êtes un incompris, alors.
Non, je ne suis pas un incompris. Je me débrouille très bien avec ce qu'il y a dans le public qui achète de recueil. Et j'ai suffisamment d'amis pour l'instant, ça va.
Et ce n'est pas un monde limité pourtant que
c'est
vous
très
représentez.
Limité,
non, mais le monde que vous dessinez n'est pas limité.
Si, il est limité. Il est limité à l'abstraction. Il est limité. Ce n'est pas des vrais gens. Ils ne sont pas d'origine contrôlée et garantie. Ce ne sont pas des Français ou des Anglais. Ils ne sont pas... Prennent son papier et pas place dans l'actualité, donc ça intéresse beaucoup moins les gens.
J'étais dans la rue. Je vois un attroupement. Je m'approche. Je demande à quelqu'un qui était là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Dis non, il y a une manifestation. Ah, oh. Ben, j'ai dit, il n'y a pas d'argent. Dis si, nous sommes tous là. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous attendez? Elle me dit qu'on nous augmente. Et pourquoi vous n'êtes pas assez nombreux? D'ici, on n'est pas fait payer.
Vous êtes beaucoup chez vous, et à part le dessin politique, vous couvrez également le monde. Et comment le connaissez-vous, ce monde?
Mais les masses médias. Enfin, mes confrères journalistes le couvrent pour moi, c'est merveilleux. Il y a des envoyés spéciaux partout qui travaillent pour moi. J'ai qu'à écouter la radio, lire les journaux, regarder la télé. Enfin, quand on est... À notre époque, vous savez, quand on est chez soi, jadis les dessinateurs politiques, les malheureux, il fallait qu'ils aillent à la Chambre des députés, qui n'était pas encore l'Assemblée nationale. Ils allaient à la Chambre des députés, passer leur journée, croquer les gens sur le vif.
C'est la question que je vous ai posée au premier contact que j'ai pris avec vous. Je vous ai demandé, est-ce que vous suivez les débats à l'Assemblée?
Si, je les suis parce qu'ils passent à la télé. Alors j'ai la télé dans l'atelier et je regarde... les débats à l'Assemblée, et puis je vois très bien les hommes politiques en gros plan, j'ai pas besoin d'aller les voir, il y a des photos merveilleuses dans les magazines et dans les journaux. Je peux faire ce métier sans sortir de chez moi, absolument.
Mais vous restez quand même un petit reflet des autres, alors.
Ah, mais je reste un reflet des autres en ce sens que moi je ne suis pas... Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui se passe en Extrême-Orient, par exemple, ou ce qui se passe au Chili, c'est pas moi qui vais voir sur place, de toute façon je pourrais pas y aller, et ça ne servirait à rien, donc je suis bien obligé d'attendre que des journalistes de la presse écrite ou radio diffusée me disent ce qui s'est passé. Je peux rien inventer. Moi, je ne vais pas au-devant. Je ne suis pas un reporter dans le sens où je ne vais pas découvrir des informations pour les communiquer au public. Je traite les informations que mes confrères journalistes m'apportent. À ce moment-là, j'en fais, si vous voulez, un résumé, j'en fais une synthèse, j'en fais une illustration. Mais il faut d'abord qu'on m'apporte cette information.
Bonjour.
Tim.
J'assiste à l'Assemblée nationale au débat, j'essaye de parler avec les députés, je rencontre des gens de la politique, je rencontre des journalistes qui me passent des tuyaux. J'essaie d'employer graphiquement les expressions de leur conversation.
Il n'y a que le contact direct qui puisse vous l'apporter, ça.
Oui. Ou les journaux, la télévision, les images, la syntaxe des images m'est nécessaire. Et c'est par là que j'apporte ce qui m'est propre à moi par le dessin, mais je participe à une œuvre collective du journalisme, du journal dans lequel je travaille, pour que, même si j'emploie un langage différent, des signes différents, un vocabulaire différent d'images, il faut quand même que ça tombe dans une ambiance d'unité d'un certain journalisme. Mais je suis d'abord journaliste. Si en plus, j'ai une coquetterie du bon dessin, c'est une affaire personnelle, comme un journaliste cultiverait son style à la fois personnel, à la fois différent, mais en même temps, qui soit non pas un langage littéraire, mais que ce soit un langage journalistique à être immédiatement consommé, immédiatement lu et compris, qui participe finalement à la vie quotidienne du pays et du monde.
Donc il vous faut à la fois l'interprétation de vos collègues qui, eux, vont au bout du monde et alors que vous restez à Paris, et également ce contact humain personnel, votre interprétation, c'est-à-dire votre qualité de journaliste, pour arriver à aboutir au dessin.
Quand vous dites qu'ils voyagent, eux, et moi je reste sur place, je voyage aussi. J'ai passé par exemple 4 mois l'année dernière comme dessinateur du New York Times à New York. Je n'ai eu aucune difficulté à faire quotidiennement des dessins dans le New York Times sur la politique américaine et mondiale, du fait que je n'emploie jamais, ou presque, et pratiquement jamais, de légende. C'est une discipline qui me paraît importante dans la caricature. Je ne dis pas qu'elle est la seule valable, mais pour ma façon de m'exprimer, elle me paraît pouvoir atteindre un plus grand public. Et finalement, je me suis aperçu que je n'avais aucune difficulté du jour au lendemain à m'adresser au public américain. Dans le New York Times, avec les mêmes éléments, le même vocabulaire graphique, et je n'avais aucune difficulté par ce même langage m'adresser à un public qui parle anglais, puisque je n'emploie jamais de mots là-dedans. Ça ne m'empêchait pas de participer à mon journalisme de l'Express en envoyant chaque semaine un dessin de là-bas, même sur la politique intérieure française, puisque j'ai recevé des rapports, enfin téléphoniques, sur ce qui se passait en France.
Comment connaissez-vous le monde ?
Je connais pas.
Vous ne bougez pas de votre appartement fraîchement repeint ?
Ça m'est arrivé de bouger, mais je déteste voyager. Je trouve qu'on passe du temps à voyager, enfin, à moins de rester, enfin, je sais pas.
Alors, de quoi pouvez-vous parler si vous ne voyez pas ce monde ?
Ah, mais c'est des jeux abstraits.
On n'en est pas encore à envoyer un dessinateur comme envoyé spécial sur un front de guerre.
Il y a des précédents. Justement, on a parlé de Steinberg pendant la Seconde Guerre mondiale. Steinberg était un war artist, un dessinateur de guerre, un dessinateur aux armées. Et il y a des albums de ces croquis de soldats américains en Afrique du Nord, aux Indes, en Chine. Nous avons envoyé Sampé au Cap Kennedy il y a quelques années. Il nous a fait un reportage dessiné sur l'envoi de la fusée sur la Lune. En ce moment, je ne crois pas qu'il y ait des dessinateurs au Moyen-Orient, des dessinateurs correspondants de guerre. Mais ce n'est pas ni contradictoire, ni impossible. Dans l'armée anglaise, pendant la guerre mondiale, il y avait j'ai connu plusieurs dessinateurs de guerre. Depuis, évidemment, la photo, le cinéma ont remplacé, mais il y a toujours de la place pour un dessinateur croquis, pour un dessinateur qui sait à la fois dessiner rapidement et saisir une scène caractéristique, avec une interprétation ou satirique ou parti pris, il y a toujours de la place pour le faire.
C'était « À coup de crayon » par Michel Bichebois, avec Jacques Faizan, Décloseau, Tim et Roland Topor. Première diffusion de ces trois premiers volets de la série, les 18, 19 et 20 décembre 1973. À suivre.